Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à votre émission du magazine des Nations Unies dont voici le sommaire. Au moins 237 civils tués, dont 65 femmes et 35 enfants par les rebelles ougandais, ADF, en octobre et décembre 2014. Pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, il s'agirait de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le manioc, un produit stratégique en RDC et une culture moins exigeante selon la FAO. La FAO qui d'ailleurs a lancé un projet sur la promotion de la chaîne de valeur de cette culture. Un expert national auprès de cette agence onusienne en RDC nous en dira plus. Un terrain de basketball à Bounia, l'ouvrage, une offre de la MONUSCO à la jeunesse du chef-lieu de l'Ituri, a été construit par le contingent népalais de la force onusienne.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour et bon dimanche dans vos familles. Je l'ai dit dans le sommaire, l'actualité de la semaine porte sur les graves violations du droit international humanitaire commises au dernier trimestre de 2014 par les ADF à Beni, au Nord Kivu, selon le BCNUDH. Et dans son rapport à cet effet, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme révèle qu'au moins 237 personnes civiles, dont 65 femmes et 35 enfants, ont été systématiquement et brutalement massacrées, ce qui estime le Bureau conjoint constituerait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. José Maria, directeur de cette section de la MONUSCO, donne des détails de ces massacres dans ses propos sélectionnés par Honoré Missenga Kalala.
C'est exécution sommaire au moins de 235 personnes de manière systématique, planifiée et préméditée d'une manière systématique par les ADF. Tous les 235 personnes que nous avons nommées sont les civils et on pense que ça peut constituer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité par rapport aux violations des droits internationaux et droits humanitaires et droits de l'homme. Aussi, nous avons constaté les attentats à l'intégrité corporelle de 49 personnes, donc des victimes de viol, des enlèvements et privations arbitraires de liberté à l'encontre de 20 personnes, des recrutements des enfants et pillages des autres appropriations illégales de propriété. Il faut aussi remarquer qu'au moins il y avait 300 personnes arrêtées par les autorités congolaises dans le cadre des massacres et au moins 33 militaires de l'FRDC dans le cadre de la lutte contre l'impunité. On peut considérer ces rapports très importants parce qu'il a la mention des faits qui peuvent être considérés comme les crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Dans ses conclusions, le BCNUDH recommande aux autorités congolaises de prendre des mesures urgentes pour mettre fin aux attaques contre les populations à Beni par les ADF et de poursuivre les enquêtes judiciaires sur les violations commises par ces rebelles ougandais. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme recommande aussi à la MONUSCO et aux autorités congolaises de reprendre les opérations militaires conjointes afin de protéger les populations civiles et de mettre fin aux activités des ADF.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La FAO a organisé du 21 au 22 avril dernier un atelier destiné aux micro et petites et moyennes entreprises agricoles de la filière manioc, cela dans le cadre d'un projet pilote sur la promotion de la chaîne de valeur du manioc en RDC. Lambert Loutété est consultant national au bureau de la FAO RDC en charge de plantes, racines et tubercules dont justement le manioc. Il fait le point de ce projet dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Lambert Loutété, bonjour.
Bonjour.
La FAO a organisé du 21 au 22 avril à Kinshasa un atelier destiné aux micro et PME agricoles de la filière manioc. Et cela dans le cadre d'un projet pilote sur la promotion de la chaîne de valeur du manioc en RDC. En quoi consiste concrètement ce projet, M. Lambert?
C'est comme le dit l'intitulé, nous voulons promouvoir la chaîne de valeur du manioc. Ça lui donne aux différents maillons du manioc la possibilité de pouvoir être opérationnel. Vous voyez, dans la chaîne de valeur, il y a la production, il y a la transformation, il y a la commercialisation, mais ce sont des maillons qui ont fonctionné depuis lors de façon désarticulée. Il faudra maintenant essayer d'appuyer chaque maillon et créer les liens entre les différents maillons pour que les maillons puissent interagir les uns les autres et permettre à toute la chaîne d'être fonctionnelle.
Oui, concrètement, ça se passe comment?
Par rapport au projet, ce que nous avons fait, c'est d'accompagner les acteurs au niveau de chaque maillon, les former. Nous avions eu 11 modules de formation, ils ont appris l'entrepreneuriat, ils ont appris comment monter les petites et moyennes entreprises, comment faire le marketing, les contrôles des prix et comment développer leur propre plan d'affaires. Et les plans d'affaires qui ont été développés, ce sont des plans d'affaires que nous avions présentés au niveau de l'atelier pour mettre ces acteurs en lien avec les banques. Vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, le volet financement agricole, c'est le volet que nous pouvons même qualifier de père pauvre. Très peu des agriculteurs ont la possibilité d'avoir des crédits. Mais alors, à partir de ce que nous avions fait, nous avons voulu que les banques puissent présenter leurs produits et que les petites et moyennes entreprises créées qui ont développé les plans d'affaires puissent eux aussi présenter ce qu'ils ont fait. Comme ça, essayer de voir si les banques pouvaient être attractives vis-à-vis de ces plans d'affaires et les financer pour que les gens aient un peu de moyens pour l'intensification de leurs activités.
Donc, ce que la FAO fait dans le cadre de ce projet, c'est juste la formation.
Nous avons formé, mais il y a aussi un accompagnement que nous faisons des activités de ces acteurs sur terrain. Suivre comment est-ce qu'ils mènent leurs activités, les former pour qu'ils arrivent à mieux structurer leurs partenaires à la base, de manière à devenir compétitif.
Alors, quels étaient les objectifs de l'atelier du 21-22?
L'objectif principal, c'est de mettre en lien les petites et moyennes entreprises qui ont été formées dans le cadre de ce projet, les mettre en lien avec les banques, de manière à établir ces dialogues-là entre les banques et les producteurs. Ceci pour amener les banques un jour à commencer à financer les producteurs de manioc.
Quelles ont été les grandes recommandations?
Il y a beaucoup d'espoir. Comme je l'ai dit au début, que jusque-là, les secteurs qui n'arrivent pas à avoir des crédits agricoles, c'est le secteur de production agricole. Parce qu'en fait, les banques disent que c'est un secteur à beaucoup de risques. Mais à partir de cet atelier, maintenant les banques ont découvert pratiquement les acteurs que nous accompagnons. Que ce sont des acteurs qui, s'il faut vraiment les approcher, ils peuvent commencer à bénéficier des crédits. Alors les recommandations qui sont sorties, c'est que nous avons demandé aux banques et aux institutions de microfinance de continuer les échanges avec les petites et moyennes entreprises que nous accompagnons pour que les uns et les autres puissent mieux se découvrir. Et une fois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, il y aura possibilité que les banques commencent à créer des produits appropriés à ce secteur qui n'a presque jamais été financé au niveau du Congo. Et nous avions aussi demandé aux banques désormais de faire un effort, aller vers les producteurs sur le terrain, essayer de découvrir ce qu'ils sont. Parce que nous sommes convaincus qu'en faisant ainsi, ils comprendront mieux comment ces gens travaillent, en quoi ils sont compétitifs et comment ils peuvent facilement mobiliser et être crédibles ou éligibles pour l'accès au microcrédit. Nous avions aussi demandé aux banques d'organiser aussi des sessions de formation, de manière qu'ils comprennent mieux ce que les petites et moyennes entreprises font au niveau de leurs activités et vice-versa. Ça va faciliter les choses. Au niveau du gouvernement, une des grandes recommandations était que le gouvernement puisse respecter l'accord de Maputo, un accord à travers lequel ils avaient dit qu'ils devraient mettre 10% du budget national au niveau du secteur agricole et appuyer les petites et moyennes entreprises, trouver un fonds qu'on appelle fonds de garantie qui peuvent être mis au niveau des banques pour que les petites et moyennes entreprises aient la possibilité d'accéder facilement au microcrédit.
Ça, ce sont des recommandations au gouvernement, aux banques, mais aux PME elles-mêmes.
Aux PME, une des recommandations était que ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là puissent se spécialiser en entrepreneur. Mais les PME que nous avons accompagnés, comme je l'ai dit, ils ont suivi la formation, et c'est une formation adéquate, sur 11 modules qui permettent à ces gens-là aujourd'hui à se présenter exactement comme entrepreneurs. Mais ceux-là qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, la recommandation était qu'ils fassent un effort de se spécialiser en un domaine donné, surtout travailler dans un maillon spécifique. Au lieu d'être dans deux ou trois maillons, là, ce sera question de s'encombrer. En ce moment-là, ça devient un peu difficile pour eux de bien œuvrer.
Il y a beaucoup de cultures en RDC, mais pourquoi avoir choisi la filière manioc?
Le manioc est très, très stratégique en République démocratique du Congo. Vous comprenez d'abord que c'est l'aliment de base. Un Congolais né au Congo vivant au Congo mangent les produits de manioc presque 7 jours sur 7. Parce que c'est vraiment l'aliment de base. Dans tout véhicule qui vient à Kinshasa, vous trouverez un produit de manioc. Et le manioc a encore beaucoup d'avantages dans ce sens que la culture n'est pas très très exigeante. Elle peut aller même dans les sols pauvres, mais en vous donnant un rendement que vous ne pouvez pas avoir si vous allez avec les céréales comme les maïs. Le manioc, c'est la principale source de revenus pour les petits paysans. Les seules feuilles de manioc, quand vous avez un hectare de feuilles de manioc, si vous récoltez 3 fois, vous pouvez récupérer l'argent que vous avez utilisé pour labourer et hercer. Et avec le manioc, aujourd'hui, vous pouvez fabriquer la farine qui peut entrer dans la panification, fabrication des pains, que vous pouvez orienter vers la pâtisserie. Le manioc est utilisé dans l'industrie textile. Le manioc va dans la fabrication des cols pour les menuisiers, pour la papeterie. Donc il y a une diversité actuellement d'usage pour le manioc. Ce qui fait que le manioc, dans certains pays comme le Nigeria, est considéré déjà comme étant l'or vert. Alors voilà aussi qui vient de d'emboîter les pas. Donc le manioc joue un rôle vraiment capital et stratégique au niveau du pays actuellement.
Monsieur Lambert Loutete, merci.
Et c'est moi qui vous remercie.
De même que nous élaborons un nouveau programme de développement durable et que nous luttons en faveur d'un monde où la dignité pour tous serait la norme, mobilisons-nous pour les droits des femmes et des enfants dans la famille et dans la société. C'est une exhortation de Ban Ki-moon dans son message à l'occasion de la Journée internationale des familles. Une journée célébrée le 15 mai de chaque année. Dans ce message, le secrétaire général de l'ONU constate que dans trop de pays, le droit de la famille et les politiques publiques continuent de cautionner la discrimination contre les femmes qui ne font aucun cas des droits de l'enfant. Femmes et enfants, il en est aussi question avec un projet que vient de lancer le bureau du PNUD RDC, renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en RDC. Ce projet a pour objectif d'aider les populations à s'adapter aux chocs climatiques tels que la sécheresse prolongée, les inondations, les ouragans, les typhons ou encore la désertification et à adopter des pratiques de subsistance résilientes. À l'issue du programme, 1200 ménages et producteurs vulnérables, soit environ 7200 personnes, hommes et femmes, maîtriseront ces pratiques de résilience et pourront gérer les risques qui y seront liés comme la pénurie alimentaire. Enfin, un nouveau représentant spécial adjoint de la MONUSCO, il s'agit du Guinéen Mamadou Diallo. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a nommé le lundi 11 mai dernier. Monsieur Diallo remplace à ce poste Moustapha Soumaré.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, organise depuis le 4 mai dernier à la place de l'Indépendance à Kinshasa une exposition photo. Cette exposition se clôture ce lundi 18 mai et s'intitule « Alliés dans la réponse à l'urgence ». Dans ce magazine, notre invité est Yves Willemot, en charge de la communication au bureau de l'UNICEF RDC. C'est encore Honoré Missenga Kalala qui s'entretient avec lui sur cette exposition. Suivez.
Monsieur Yves Willemot, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF présente depuis le 4 mai dernier à Kinshasa une exposition de photos. Quel est l'objectif de cette exposition?
L'exposition a pour but d'illustrer par le biais de photos les interventions en termes de réponse à l'urgence que met en place l'UNICEF à travers la RDC en partenariat avec des partenaires techniques et financiers.
Alors pourquoi cette exposition s'intitule justement « Alliés dans la réponse à l'urgence » ?
Parce que l'exposition met tout particulièrement en évidence le partenariat qui existe entre l'UNICEF et ECHO, la branche humanitaire de l'Union européenne, qui sont des alliés dans la réponse à l'urgence ici en RDC.
ECHO fait concrètement quoi dans ce partenariat ?
ECHO finance des projets au niveau d'un programme qui s'appelle la réponse rapide au mouvement des populations, soutient également un programme de réponse aux crises nutritionnelles ainsi que des programmes de réponse au choléra.
Ah, c'est ça les urgences pour l'UNICEF?
Ce ne sont pas que ces urgences-là, mais ce sont ces urgences-là qui sont mises en évidence dans le cadre de cette exposition, donc qui focalisent plus particulièrement sur l'apport d'ECHO dans la réponse à l'urgence que met en place l'UNICEF, avec des partenaires ONG dans les différentes interventions, et soutenus aussi par d'autres bailleurs financiers.
Oui, face à ces urgences, quelles sont concrètement les réponses qu'apporte l'UNICEF avec ses partenaires?
Mais plus particulièrement, en 2014, c'est 2 millions de personnes qui ont pu bénéficier de l'aide dans le cadre du programme de réponse rapide au mouvement de population par des interventions multisectorielles de prise en charge de population en mouvement au niveau de la santé, au niveau de l'accès à l'eau, à l'hygiène, au niveau de l'éducation dans l'urgence, la prise en charge de problématiques de protection. C'est également en 2014 13 000 cas de choléra qui ont été traités dans le cadre des réponses à cette urgence, et puis c'est environ 300 000 vaccinations contre la rougeole qui, dans le cadre de la réponse à l'urgence, ont été organisées.
En dehors des cours, quels sont les autres partenaires? Est-ce que le gouvernement est également partenaire dans ces actions?
Bien entendu, on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement ici de la République démocratique du Congo dans la réponse à l'urgence. Et puis d'autre part, il y a deux autres types de partenaires. Il y a des partenaires techniques qui sont des ONG avec lesquelles on travaille sur le terrain pour mettre en place des interventions pratiques et techniques. Et puis il y a les bailleurs, les partenaires financiers tels que UKAID, tels que la coopération suédoise et plein d'autres.
Alors pour ceux qui ne peuvent pas arriver sur place là où vous faites l'exposition, quelles sont les différentes photos que vous exposez là-bas?
Ben tout d'abord, j'oserais dire que ce sont des photos qui méritent le déplacement. Ce sont des très très belles photos qui ont été prises en 2014 par des professionnels de la photo. Ça mérite véritablement le déplacement. Cela étant dit, pour les auditeurs qui ne sont pas sur Kinshasa, sachez que l'exposition sera également présente à Goma autour du Journée de l'enfant africain le 16 juin et voyagera après au Katanga puisqu'elle sera représentée également à Lubumbashi, donc on du mois d'août. Et puis, on a reçu récemment une suggestion, une demande de la part de l'Union européenne de pouvoir monter l'exposition également au sein du Parlement européen à Bruxelles. Et pour les gens qui ne peuvent pas aller à Bruxelles, ni à Lubumbashi, ni à Goma, ni à Kinshasa, on a quand même l'occasion ou la possibilité de leur donner l'occasion de visiter l'exposition, puisque l'exposition existe également d'une manière digitale, et donc on peut la visiter via Internet sur le site ponapana.com.
Alors, pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, décrivez-nous quand même les photos qui sont en train d'être exposées là-bas.
Tout d'abord, l'exposition est divisée en trois parties. Il y a une partie qui parle spécifiquement de ce programme réponse rapide au mouvement de population. Une deuxième partie parle de la réponse à l'urgence nutritionnelle, aux crises nutritionnelles. Et puis, la troisième partie parle de la réponse au choléra et des interventions au niveau de l'urgence dans le contexte de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. C'est une exposition qui a relativement peu de textes, ce sont surtout des photos, donc il faut surtout plonger, je dirais, dans le visuel. Ce sont des photos où on voit des populations bénéficiaires des programmes et on voit également les acteurs techniques, donc les ONG avec lesquelles nous travaillons, ainsi que l'apport d'éco avec des interventions pratiques des partenaires éco, ONG et l'apport des financiers.
Il n'y a pas d'image de détresse, de tristesse, de mouvement des gens en déplacement?
C'est vrai que c'est une exposition qui parle de situations qui sont parfois dramatiques, particulièrement préoccupantes. Cependant, si vous me permettez, c'est un peu le style de l'UNICEF et c'est la volonté également de l'UNICEF. Ça se fait par le biais de photos qui respectent la dignité des populations en difficulté. Donc ce sont des photos qui, même si elles décrivent une situation parfois problématique, sont des photos porteuses d'espoir, sont des photos positives avec des gens, des personnes qui sont plutôt souriants que des personnes qui sont déprimées, je dirais.
Est-ce qu'il y a une influence? Les gens viennent quand même?
Ben, on a la chance et je saisis l'occasion de remercier les partenaires gouvernementaux, que ce soit le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité nationale, ainsi que la commune de la Gombe. On a la chance de pouvoir collaborer avec ces partenaires-là, parce que c'est grâce à ce partenariat qu'on a pu monter l'exposition dans un site aussi unique que la place du 30 juin, qui est un site qui, par définition, attire beaucoup de monde. Et donc, on a les gens qui viennent spécifiquement pour voir l'exposition, mais on a bien entendu aussi les passagers qui profitent de l'occasion d'être sur la place ou autour de la place pour jeter un coup d'œil sur l'exposition.
En dehors de l'objectif de l'exposition, est-ce que au-delà, il y a un message particulier que voudrait véhiculer l'UNICEF?
Il y a un double message. Le premier message, c'est que nous ne pouvons pas oublier toutes ces personnes qui sont victimes de l'instabilité, de la violence et qui sont obligées de se déplacer. Aujourd'hui, on parle de 2,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur même de la RDC. Ce sont des personnes qui méritent notre attention et notre soutien. Et dans ce contexte-là, je me permettrai de souligner surtout le fait que, et on l'oublie trop souvent, les premiers acteurs humanitaires, ce sont les populations locales elles-mêmes. Aujourd'hui, on estime que pratiquement la moitié des 2,7 millions de personnes qui sont déplacées sont prises en charge par des familles d'accueil. Et donc, je crois qu'il est important d'en être conscient et il est important dans ce contexte-là d'apporter une aide et un soutien non seulement aux populations déplacées, mais également à ces dizaines de milliers de familles qui accueillent gracieusement ces populations, ces personnes qui sont déplacées. L'autre message particulièrement important qu'on veut faire passer dans le cadre de l'exposition, c'est que les enfants sont porteurs de droits et que ces droits valent pour tous les enfants, quelles que soient les situations dans lesquelles vivent ces enfants. Et donc le droit à la survie, le droit à l'éducation, le droit à la protection sont des droits fondamentaux qui valent également pour ces enfants déplacés. Donc on a l'obligation, en tant que responsables gouvernementaux, en tant que bailleurs, en tant qu'opérateurs techniques, de s'assurer que tous ces enfants qui sont déplacés dans l'Est du Congo et accès à la vaccination, à l'eau potable, puisse continuer à aller à l'école. Je profite dans ce contexte-là de refaire un appel à tous les bailleurs qui nous ont soutenus dans le passé de continuer à nous soutenir afin de garantir que les droits de tous ces enfants puissent être garantis.
Yves Willemo, merci.
La MONUSCO a remis officiellement jeudi 7 mai dernier un terrain de basketball à la jeunesse de Bounia, d'une capacité d'accueil de plus ou moins 1000 spectateurs. Cet ouvrage a été construit par le contingent népalais sur financement de la MONUSCO. Reportage de Sadiki Aboubakar.
C'est un stade construit en dur avec un dispositif permettant les spectateurs de s'asseoir à l'intérieur et qui peut recevoir environ 1000 personnes. Voici la description de l'ouvrage dans l'extrait de discours du capitaine Jayaraj du contingent népalais traduit en français.
Ce projet a commencé le 8 décembre 2014 et terminé le 28 avril 2015 pour un montant total de $15,850. C'est une construction qui comprend un terrain de jeu avec trois niveaux d'assises sur trois côtés et deux portes d'entrée-sortie. La compagnie des ingénieurs népalais a utilisé son propre argent pour la peinture afin que cette construction soit encore plus belle et attirante.
Ce projet a été initié par le club de vétérans de basketball de Bounia. Avec quel objectif? Rodrigue Roubouillé, son président, répond.
Les vétérans ont trouvé que le jeune basketteur de Bounia n'avait pas le confort dans les terrains qu'eux utilisaient. Et premièrement, les vétérans ont commencé par réhabiliter eux-mêmes par l'achat des anneaux à standard international en provenance de Goma et réhabiliter les panneaux de basketball. Ce n'est qu'après qu'ils ont trouvé qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils ont fait recours à la MONUSCO.
Rodrigue Roubouillé appelle les jeunes à en faire bon usage.
En ce qui concerne la MONUSCO, je ne peux que remercier premièrement et dire à la MONUSCO de continuer avec ce genre d'œuvre pour la jeunesse de Bounia en particulier et de la province de l'Ituri en général. Et à ce qui concerne les jeunes basketteurs, de garder cette œuvre que j'appelle monument pour l'instant pour les Népalais, hein, avec amour.
Le chef du bureau de la MONUSCO se félicite de ces projets au profit de la jeunesse iturienne et promet en faire plus. Mohand Ladjouzi.
Nous avons pensé que pour les projets de CUIPS, nous pouvons considérer quelques bénéfices pour la jeunesse, d'autant plus que l'infrastructure en la matière est vraiment très très délimitée ici. Comme vous venez de le dire, le stade de basketball qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui, c'est vraiment le premier à Bounia que je souhaite prochainement nous puissions compléter un semi-complexe de grande envergure.
Un match de fair play avait été joué par les équipes de Bounia réunies pour cet effet. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée au cours de la conférence de presse de mercredi dernier à Kinshasa, ainsi que la réponse.
Guillaume Lomé, RTNC2 Développement. Ma question s'adresse à Geneviève Delonoy. Comment concrètement les différentes agences des Nations Unies comptent soutenir la population des territoires de l'Équateur où les germes du virus Ebola seraient toujours présents pour ne pas retomber des mains dans les contaminations massives et propagation du virus?
Merci pour votre question. C'est en effet une question essentielle parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et vous avez vu que j'ai souligné les différents secteurs dans lesquels l'étude recommande d'agir, à savoir le secteur de la santé, de l'agriculture, des infrastructures et notamment de la prise en charge psycho-socio-économique. Alors, maintenant, c'est à voir ensemble au sein du système des Nations Unies comment aider les populations. Mais je voudrais quand même rappeler une chose importante, c'est que la protection de la population, que ce soit au niveau de la sécurité ou au niveau de la santé, c'est une responsabilité qui incombe en premier lieu aux autorités congolaises. Les Nations Unies viennent ici en appui. Donc c'est pour ça que cette étude est conjointe avec le ministère de la Santé publique et le PNUD notamment, en l'occurrence ici. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'impulsion va venir de la part du ministère de la Santé et le PNUD en l'occurrence et les autres agences des Nations Unies qui voudront y participer pourront appuyer. Mais l'initiative viendra de la part du ministère de la Santé publique.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Fidelice Lailonga. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis informaticienne. J'ai eu une formation à l'université de Kinshasa. Je suis licenciée en informatique de gestion. Je fais la maths informatique. J'ai fini mes études en 2006. Tout juste après mes études, j'ai commencé le travail ici à la Radio Capi. J'ai été engagée avant tout à la FH le 15 janvier 2006. Jusqu'en 2011, j'ai eu un contrat MONUSCO. Et je suis IT assistante ici à la MONUSCO. Je fais comme travail helpdesk, c'est-à-dire je suis comme support informatique ici à la radio, tout juste à la Radio Capi, parce que MONUSCO a plusieurs sections. Je travaille sur place ici à la Radio Capi comme IT assistance. Quand les utilisateurs de la Radio Capi, les journalistes, ont des problèmes informatiques, nous intervenons dans l'équipe. Nous sommes à 5 et je suis l'unique femme congolaise en informatique ici à la Radio Capi. Mon parcours, disons que directement, quand je finis les études à l'université, j'ai commencé le travail ici à la MONUSCO. Je n'ai pas travaillé ailleurs. Après le travail, le temps libre, je rentre directement à la maison, je m'occupe de mes enfants. Des fois, les jours que je ne travaille pas, je fais la cuisine pour mon mari, mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Je guide leurs devoirs à la maison, nous travaillons ensemble, on cause, on joue. Ça, c'est mes occupations du temps libre. Comme musique, je préfère les anciens succès. J'aime beaucoup la musique de Madilou, Luambo Makiadi, Taboulé. On n'oublie jamais sa culture. J'aime aussi plus la musique de Bayuda du Congo, Tshala Mwana, c'est ma langue maternelle. Comme sport, j'aime le foot, mais pas le foot congolais. J'aime suivre le foot étranger européen. Et les équipes comme Barcelone, Real de Madrid, quelques équipes européennes aussi, ces matchs-là. Comme gastronomie, je mange plus le repas de l'oriental, disons de province orientale. Le riz, le banane plantain, les liboquets, c'est ce que je fais de temps en temps chez moi. Les pondous, je n'aime pas tellement les pondous de Matamba, de chez nous, Balouba, non. Il faut mettre le poisson, la viande et mettre un peu de la pâte d'arachide à l'intérieur. C'est ce que j'aime comme pondous quand tu prépares comme ça. Même si on ne prépare pas la viande, un truc à côté, je peux manger les pondous comme ça avec le patate douce, le banane plantain et du riz. J'aime ça, c'est bon. Donc, comme projet, depuis mon enfance, je pensais créer une petite entreprise de... Qu'est-ce que je peux dire? la pêche artisanale, mais la pêche industrielle. Comme j'aime beaucoup le poisson, deux bateaux, et on était un peu d'industrialiser, et nous faisons de la pêche industrielle, et nous installons des matériels informatiques pour gérer cette petite entreprise. Ici s'achève notre émission de ce dimanche, supervisée par Ben Kabamba. Honoré Missenga Kalala à la coordination et au reportage, Thérèse Bassoubiété est à la présentation de ce numéro avec le concours et la dextérité technique de Jean-Claude Siala. Vous pouvez retrouver ce numéro de magazine des Nations Unies sur le site de Radio Capi, radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce magazine consacré aux agences des Nations Unies et à la MONUSCO. Excellente journée dominicale à tous.